Vous écoutez RTL.
Comment mieux contrôler la vente d'actifs français à des capitaux étrangers? Prenons l'exemple de la branche énergie d'Alstom, rachetée en 2014 par General Electric. Eh bien, c'est la mission d'une commission parlementaire et on va en découvrir immédiatement les dessous.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Olivier Marleix.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes député Les Républicains d'Eure-et-Loire et vous présidez la commission d'enquête Alstom, justement. Alors, replongeons-nous en 2014. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Selon votre enquête, qui est au courant à ce moment-là ?
En fait, en théorie, si on écoute ce que nous ont dit les acteurs politiques de l'époque, personne, ils découvrent, ils tombent de l'arbre, etc. Bon, c'est la version de M. Montebourg, qui était sans doute sincère, qui avait sans doute pas beaucoup d'infos. C'est aussi la version que reprendra Emmanuel Macron, son successeur, oui, ministre de l'économie, en 2015 devant l'Assemblée nationale. En réalité, au terme de 6 mois de travaux, on se rend compte que l'histoire est peut-être pas tout à fait celle-là, que la chronologie n'est peut-être pas tout à fait celle-là, que cette vente, elle était dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit.
Je vous interromps déjà sur ce premier point. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris.
C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant.
Et donc les conséquences d'une éventuelle vente ?
Sur les conséquences d'une éventuelle vente, notamment à General Electric, qui est une des études, qui est une des hypothèses qui est clairement sur la table. Ce qui est gênant, c'est au-delà de ça, c'est surtout qu'il ne se passe rien après pendant 18 mois. Quoi. On nous a dit, mais vous savez, le projet était ficelé, on ne pouvait rien faire, etc. Si à ce moment-là, on avait utilisé les informations qu'on avait, ou même ce n'était pas une information, c'était une intuition géniale, mettons, on avait tout à fait le temps de monter un autre scénario pour essayer de sauver ce qui était quand même un acteur majeur du nucléaire en France, je vous rappelle, c'est les turbines de nos 58 réacteurs nucléaires, c'est pas rien, et c'était la capacité de la France à vendre des centrales nucléaires clés en main dans le monde, 100% françaises. On n'est que 5 ou 6 nations dans le monde à savoir faire ça. Enfin, on était, pardon.
Mais dites-moi, en 2004, l'État s'est battu pour sauver Alstom.
Oui, c'est effectivement le à contrario. Hein, en 2004, Nicolas Sarkozy, de le rappeler, sauve Alstom. 2014, on laisse faire. C'est une approche différente des choses.
Je reprends les différents acteurs à la lumière des informations que vous avez pu recueillir. On se souvient donc de la réaction d'Arnaud Montebourg, qui se retrouve, lui, face au fait accompli. Est-ce que vous pensez qu'il l'a réellement subi ?
Oui, je crois, nous avons entendu Arnaud Montebourg sous serment, on avait la possibilité, on l'a entendu 2 fois. Je crois très clairement que lui n'était pas informé et que lui a vraiment découvert à ce moment-là ces discussions. En revanche, je pense que l'État était à un autre niveau, était clairement informé. Le patron de l'APE de l'époque nous a dit clairement qu'il avait une demande de l'Élysée ou Matignon, par élimination, je sais que ce n'est pas de Matignon que ça venait, d'étudier le scénario d'un désengagement de Bouygues, qui était l'acteur de référence, et d'une vente à General Electric.
Alors, Emmanuel Macron est président de la République. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a affirmé, lui aussi, s'être retrouvé devant, je cite, « un projet totalement ficelé ». Vous nous dites aujourd'hui très clairement sur RTL que vous pensez que c'est faux, qu'il ment.
Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé.
Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même.
Il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 euros. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé? Il aurait pu nous dire, dès 2012, on a vu des réflexions, mais on a interrogé Martin Bouygues, il nous a dit qu'il n'y avait aucun projet, etc. Visiblement, l'histoire n'est pas celle-là et elle n'est pas celle que nous a raconté à l'époque Emmanuel Macron.
Alors, on n'est pas aux États-Unis où l'idée d'un mensonge est immédiatement sanctionné. Qu'est-ce que vous souhaitez en avérant ces faits qui peuvent effectivement choquer? Que souhaitez-vous avec votre commission obtenir au bout du compte?
Le sujet, c'est pas de refaire l'histoire. Le sujet, c'est très clairement qu'on sorte de cette opacité. Voilà. Moi, je ne doute pas que les banques d'affaires, c'est leur métier, et plein de bonnes idées, elles le font très bien. Une belle réussite d'ailleurs pour trouver des deals. Simplement, il y a des secteurs où ces deals, il faut quand même qu'ils soient approuvés par l'État sérieusement dans les conditions où on le prévoit la loi. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de secteurs, il s'agit de défendre les intérêts nationaux. Et donc, le politique doit faire son boulot. Et je suis très heureux que notre commission d'enquête ait débouché sur quelque chose à quelle personne ne croyait, c'est qu'on va enfin sortir de l'entre-soi et que désormais, tout ça se fera sous le regard du Parlement. C'est-à-dire, c'est un gage de transparence que nous avons obtenu.
On s'est bien compris sur des domaines sensibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mêler de toutes les affaires de concurrence qui ont lieu quotidiennement et dont on n'entend même pas parler.
Tout à fait. Il ne s'agit vraiment que d'une centaine de petites affaires par an. Donc, tout ça, évidemment, balaye l'argument de la nuisance à l'égard de l'attractivité de la France. Ce n'est pas du tout le même sujet. Le gouvernement en convient, conjugue-le en même temps. On peut être en même temps un pays attractif et en même temps se défendre. Je pense qu'il en est plus que temps.
Une toute dernière question. Vous auriez souhaité que d'une façon ou d'une autre, on puisse interroger aujourd'hui l'homme qui est devenu président de la République sur ce qui s'est passé à l'époque ?
Ah bah, idéalement, ça aurait été bien, parce qu'il y a de vraies contradictions entre ce qu'il nous a dit, lui, et même ce qu'a dit François Hollande, qui parle de cette affaire dans son livre, en racontant que l'initiative est revenue à Martin Bouygues, ce que Martin Bouygues a dit à peu près le contraire devant la commission d'enquête.
Merci beaucoup, Olivier Marleix. On va suivre ce dossier avec curiosité. Merci d'être venu ce matin.
Merci,
je le rappelle, sur RTL, vous présidez la commission d'enquête Alstom, justement, et vous êtes député Les Républicains du département d'Eure-et-Loir.